Je vous permets de Beth Knesset. Je vais leur dire quelque chose qui va être obligé de les faire taire. Bon, Raïve Rabotel, je suis obligé de rentrer assez tôt parce que nous avons une route qui est très dangereuse. Donc, je vous demande de commencer le chiot. D'abord, merci de me recevoir à nouveau ici, chez Baalei HaBayit, et d'une manière générale, la famille Lévi, et d'une manière générale, à Ra'anana. Et Be'ezrat Hashem, avec la permission des rabbinim et de toutes les personnes importantes qui sont là, kol echad ve'echad lefi ma'alato. J'ai choisi un sujet qui est très complexe parce qu'il est en fait englobant. Et il s'agit donc de la génétique du peuple d'Israël, pas sous la forme médicale bien entendu, mais par rapport à ce que les sages nous ont laissé, et notamment le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui nous a laissé une règle qui dit la chose suivante, « Ma'ase avot siman labanim ». Traduction littérale, ce que les pères ont fait, c'est un signe pour les enfants. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement d'un signe extérieur, mais de quelque chose qui va passer dans la génétique, dans le programme intérieur de l'être, c'est-à-dire que le peuple d'Israël qui est issu de nos pères va voyager dans son histoire avec les gènes que les pères lui ont laissés. Alors il est très difficile de donner des cours parce que ce sont des cours sans texte et j'ai un petit peu de mal avec des cours qui sont sans texte, donc je suis obligé de faire un effort supplémentaire. J'ai l'habitude d'étudier avec un texte, donc avec beaucoup plus de sérénité et de calme. Là, je suis obligé de lever la voix et donc je perds un petit peu de ma concentration, mais on va essayer malgré tout, Be'ezrat Hashem, de pallier à ces manques. Nous disons dans la bénédiction, dans la tfila de Mincha de Shabbat, dans la Amida, Baruch Eloheinu Sheberaanu Lichvodo. Zehivdilanu min hatorim, venatan lanu torat emet, vechaye olam nata betochenu. Je traduis. Alors, vous avez l'habitude de traduire béni soit notre Dieu. En aucun cas je traduirai de cette manière-là, car le mot Baruch en hébreu vient du mot Berech, qui veut dire le genou, et qui en réalité fait le lien entre deux parties, entre le « je » et le « nous ». C'est-à-dire que le genou, comme en hébreu « berer », est en valeur numérique 222, c'est-à-dire qu'il fait en fait le lien entre deux degrés. Donc à chaque fois que vous dites « baruch », vous ne dites pas « béni sois-tu », mais tu es relié. « Ata baruch », tu es relié. Baruch Ata Hashem, relié, tu es l'éternel Eloheinu à nous. Ça veut dire que quand je ne peux pas bénir Dieu, je ne peux pas lui dire béni sois-tu l'éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu es relié à mon être par l'action, par la bénédiction, par ce que je suis en train de faire maintenant. Alors ce Baruch Eloheinu, cette liaison, ce lien qui nous unit à l'infini béni soit-il, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Shebera'anu lichvodo. Il nous a créés pour son kavod. Là aussi, le mot kavod ne veut pas dire seulement respect, mais vient de la racine kaved, qui veut dire lourd. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, nous, le peuple d'Israël, pour lui donner à lui du poids sur terre. Grâce à Israël, l'infini peut se poser parce qu'il a un poids, parce qu'il a une importance sur la terre, c'est-à-dire dans la création tout entière. Et c'est ça le kavod. Dans la Kabbalah, le kavod est synonyme de la sphère de malchut, de royauté. C'est-à-dire que seul le peuple d'Israël, en érigeant un roi de chair et d'os, Ken, Bassar Vadam, eh bien en réalité c'est le royaume du ciel qui traverse le roi humain. Et donc Israël, par son royaume, fait venir en fait le divin sur terre. C'est pour ça que nous attendons le roi Mashiach, qui est en réalité le dernier roi d'Israël, et qui va dévoiler d'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus complète, le royaume du ciel sur terre. Donc écoutez bien ce que nous disons. Baruch Eloheinu Sheberaanu Lichvodo. L'Éternel est relié à nous et il nous a créés pour lui donner du poids sur terre. Et il nous a différenciés, attention, pas séparés. On n'est pas séparés des nations. On est différenciés des nations. Ici, to'im, ce n'est pas avec un tet qui veut dire ceux qui se trompent, mais to'im avec un taf, ceux qui se perdent. C'est une grande différence. To'e bamidbar, avec un aïn. Hivdilanu min hat-to'im. C'est-à-dire qu'il nous a différenciés de ceux qui se trompent. Pourquoi on ne se trompe pas? Et c'est très important d'avoir une certitude. Parce que justement, il nous a donné. Venatalanu Torah emet. Il ne nous a pas donné seulement une Torah. Il nous a donné une Torah de emet. Que veut dire le supplément emet? Il aurait été suffisant de dire Venatalanu Torah. Non, il nous a donné la Torah de emet. Or, la Torah de emet, c'est en réalité la Torah du secret, la Torah du Sod, la Torah du Zohar HaKadosh, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom. C'est cette Torah qu'il nous a donnée, qui bien entendu peut être étudiée dans les livres secrets, mais elle est aussi dans les livres, entre guillemets, qui sont à la mesure, à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes. Il faut juste avoir un rave qui soit capable de prendre ces éléments supérieurs et de le faire venir sur terre. C'est ça l'étude en réalité du sod, le secret. Or le mot sod en hébreu veut dire entité. Sodam al pechad kevodi. Sodam veut dire bikhalam. Kahal et sod, c'est-à-dire communauté et secret, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du dénominateur commun qu'il faut savoir déceler quand on fait face à beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas de tomber dans l'erreur du détail. Il faut savoir toujours où est le lien, où est l'élément unificateur et pas seulement les éléments séparateurs. Et ça, c'est la Torah de Klal Israël. Donc, il nous a donné une Torah qui est capable de faire l'union entre tous les degrés de la vie. Je veux dire par là entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme, entre le sens premier de la Torah et la lecture beaucoup plus profonde, entre l'encre et le papier ou le parchemin, entre la nature et la sainteté, entre le peuple d'Israël et sa terre, entre la Torah orale et la Torah écrite, et je peux continuer jusqu'à demain matin. Ça, c'est la Torah des secrets. La Torah des secrets, c'est la Torah de l'unité, du code 1. Et c'est cette Torah qui nous a donné, Baruch Eloheinu, tu es relié à nous, l'Éternel, Sheberaanu Lichvodo, et tu nous as créés pour toi, pour te donner du poids sur terre. Comment est-ce que je peux donner du poids en faisant descendre des valeurs divines et les apporter, les mettre à la portée du monde dans lequel je vis? Grâce à Torah Emet, grâce à une Torah qui sait coller les degrés entre eux. Vechaye olam nata betochenu. Et une vie d'éternité, c'est-à-dire du Nessach, de la victoire et de l'éternité, il a imprégné à l'intérieur de nous, il nous a implanté. Netia, c'est une plantation. Betochenu à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous sommes pleins de Torah, d'une manière innée, chacun de vous, chacun de nous. Même si vous n'avez jamais étudié la Torah de votre vie, vous êtes plein de Torah dans votre potentiel de base, dans votre capacité de base. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est un cadeau divin qui est donné à chacun de nous lorsque nous sommes déjà dans le ventre de maman, avant de venir sur terre. En fait, toutes les études que vous allez faire durant votre vie ne sont que des répétitions de ce que vous savez déjà intuitivement. C'est tout. À quoi cela ressemble ? À un texte, imaginez-vous que j'étudie un texte, je le passe comme un élément électromagnétique, et j'essaye de voir s'il y a des résonances dans mon corps. C'est tout. Mais si tu as l'impression que la Torah que tu étudies est extérieure à ton être, donc c'est quelque chose d'étranger à moi, alors tu sors de ce verset « Vechaye olam nata betochenu » puisque la Torah est étrangère à ta nature, donc je n'ai aucun rapport avec cette Torah, je ne vois pas pourquoi je dois appliquer quelque chose qui ne fait pas partie de mon être. Et quelqu'un qui vous dit, moi je n'étudie pas la Torah, ça ne me parle pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé en fait la résonance chez lui qui va réveiller ce qu'il est déjà. Parce que justement la manière dont tu as d'étudier ne correspond pas à ce qu'il attend pour extérioriser son être intérieur qui lui est déjà plein de Torah, malgré lui. Pourquoi je vous dis tout ça ? Mais tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé potentiellement capable de lui donner le poids sur terre. Autrement dit, le peuple d'Israël a été créé avec les gènes nécessaires et suffisants pour dévoiler les valeurs de l'infini dans le monde de la création. Nous sommes donc ses porte-paroles, son porte-parole en tant que peuple, en tant que nation. C'est ce qu'on appelle la Ségoula, c'est-à-dire notre capacité de base, notre potentiel de base. Nous avons ça à l'intérieur de nous. Si nous n'avions pas ce potentiel, ça ne sert à rien de faire ni la Torah ni les mitzvot. Je vous donne un exemple, j'ai été créé homme, donc on peut m'apprendre un jour à parler. Parce que l'homme, dans sa nature, est capable de parler. Mais il ne s'agit pas d'apprendre à parler à un chat, parce qu'il n'a pas ça en lui. Et c'est la même chose pour la Torah et pour les mitzvot. Un goy qui fait la Torah et les mitzvot, ça ne veut rien dire, parce que ça n'est pas sa nature. Donc je ne vais pas rendre un japonais juif. Je n'ai pas le droit. Au contraire, je suis en train de fauter. Je le sors de sa structure personnelle qui lui correspond pour le déguiser en quelque chose d'autre dont je n'ai pas le droit de convertir. Si ce n'est que lui vient parce qu'il ressent cette résonance, ça veut dire que dans un autre corps, dans une autre réincarnation, il était déjà faisant partie de mon peuple. Donc il ne fait que revenir à la maison. Moralité, je n'ai pas le droit de convertir quoi que ce soit en quelque chose qu'il n'est pas. Et moi, pourquoi j'étudie la Torah? Parce que je suis Torah. Je suis entièrement Torah et je ne fais que répéter, qu'extérioriser ce que je suis à l'intérieur. Et les moyens que j'ai reçus pour le faire correspondent à ma nature. Donc Akadosh Baruch Hu a choisi de me créer plus exactement avec ces données de base qui correspondent à cette nature qui est capable, elle, cette nature, du peuple d'Israël, de dévoiler son nom, de lui donner du poids dans le monde. Ça veut dire que dans nos gènes, nous sommes capables de faire cela. Le seul choix qui nous reste, c'est de le faire ou de l'étouffer. C'est-à-dire, vous pouvez, chacun de nous peut, ou réaliser ce potentiel, le vivre selon sa véritable capacité, ou bien l'étouffer, l'ignorer, la fuir. Mais ça ne change rien. À l'intérieur de lui, il restera avec son potentiel, et il sera jugé par rapport à ce potentiel non réalisé ou réalisé. C'est tout. Alors imaginez-vous que vous avez 100% de ce potentiel, on va vous mesurer par rapport à ce potentiel combien de pourcentage vous avez extériorisé de votre propre potentiel. Dans cet appareil, j'ai des applications par milliers, je n'en utilise que 5 ou 6. Et c'est la même chose. Nous avons des capacités à devenir prophètes, parce que nous avons reçu ça dans nos gestes. Et si on n'est pas prophète, c'est qu'on faute à notre programme intérieur. Donc à chaque fois que je suis en dessous de ce que je dois être, je suis en faute par rapport à mon être véritable, à ma véritable valeur, à mon véritable niveau. C'est ce qu'on appelle les fautes en hébreu, hachta'a, c'est-à-dire tu as raté le dévoilement de ton véritable être. Il s'agit donc de se connaître, de s'étudier. Donc Akadosh Baruch Hu dit au Père qui a commencé à révéler ce que nous sommes, Abraham, qui est en réalité la matrice, Lech Lecha. Il faut que tu ailles vers toi. Lech Lecha. Ça veut dire que si Abraham, c'est mon géniteur, c'est ma matrice, si lui a reçu l'ordre qu'il a entendu de lui-même à l'intérieur de Lech Lecha, eh bien ça doit passer dans mes gènes. Et la preuve, vous l'avez tous entendu, la preuve c'est que vous êtes monté en Israël. Donc vous avez entendu le Lech Lecha dans vos gènes. Ce n'est pas un son extérieur, c'est un son intérieur qui vous a dit tout simplement, chérie, on fait les balises. C'est tout. Il faut bien comprendre qu'Abraham a vu, nous n'entend pas des voix extérieures. On n'est pas au cinéma. C'est une voix intérieure avec une conviction et une certitude que ça vient de l'infini. Et c'est ça la prophétie, c'est qu'on n'a pas de doute. Chez nous encore, on peut se dire, peut-être c'est le fruit de mon imagination. Le prophète, non. Il a un niveau où il y a une certitude que ça vient de l'être supérieur qui génère la vie et que cette vie, je suis en train de la recevoir à travers moi. Donc le peuple d'Israël est une conception divine qui a été prévue et qui va apparaître en dernier, mais qui a été prévue en premier, avant même la création du monde. Ça veut dire que c'est une forme de vie, une forme vivante, que l'Éternel, avant de créer ce monde, a déjà créé, qu'on appelle Nishmat Ha'uma, la Neshama de notre nation, avant même qu'il y ait des Juifs, hein, on ne parle pas encore d'être humain, il n'y a même pas de monde, il n'y a rien. Et cette idée première, cet idéal premier, lorsque le monde sera créé, eh bien, il va devoir descendre, parce que c'est lui qui a la capacité de traduire les valeurs divines, dans la création qui va avoir lieu. Maintenant, il y a un problème. Cette âme, il va falloir qu'elle s'habille dans des corps, dans des êtres humains. Donc il va falloir attendre les êtres, le groupe ethnique, le groupe social, qui va être en réalité le porteur de cette grande Neshama qui était avant le monde. Vous me comprenez? Donc avant d'arriver à ce groupe de personnes-là, il y a un cheminement. Ça ne se fait pas facilement. Il y a comme un entonnoir qui va rejeter certains degrés, qui va en garder d'autres, jusqu'à trouver le corps qui a la correspondance et la résonance qui peut recevoir le message qui a précédé le monde, tout ceci pour dévoiler les valeurs de l'infini dans le fini. Tout ce que je viens de dire, ça s'appelle « mon fils aîné ». Bni Bechori Israël. Akadosh Baruch Hu nous traite de son fils aîné. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le fils aîné, c'est celui qui fait du mari un papa. C'est pas le père qui a fait le fils. C'est le fils qui a rendu l'homme père. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu nous défini comme Bechor, ça veut dire que nous étions en réalité dans la prémisse de sa pensée. Donc seul celui qui a été prévu pour cette Bechora, et là je reviens à Berech, c'est les mêmes lettres, le genou. Donc Bechor, c'est tout simplement inverser le Chaf et le Resh, mais ce sont les mêmes lettres. 2-2-2, c'est-à-dire celui qui arrive à faire de l'unité divine un vécu dans le monde binaire dans lequel nous sommes. Donc Israël s'appelle Bechor, autrement dit c'est lui qui est seul capable de prendre la lumière divine et de la transformer comme un transformateur pour le bienfait de la vie. Quiconque se déguisera en aîné à la place d'Israël, mourra. Pourquoi il mourra? Pas parce que Dieu l'a puni, tout simplement parce que dans ses gènes, il n'est pas capable de prendre cette lumière et de la traduire. Donc il va brûler. C'est la plaie des premiers-nés en Égypte. C'est pas que Dieu s'énerve parce qu'on lui a volé quelque chose et qu'il dit je vais les punir, qu'est-ce que je vais prendre comme punition? Non. Ils veulent dire que c'est les premiers-nés, il n'y a pas de problème, je fais passer ma lumière à travers eux. Et si tu n'es pas capable de contenir cette lumière, tu exploses. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de punition divine. Tu veux jouer à quelque chose, eh bien on te fait passer l'énergie, il n'y a pas de problème. On verra si tu es capable réellement de jouer le rôle que tu es en train de voler au véritable fils aîné. Et donc, durant l'histoire, nous allons avoir des sociétés qui voudront prendre la place du droit d'aînesse à Israël. Et chacun de ces personnages-là va exploser littéralement, va mourir.
C'est pour la terre.
On y arrive. C'est comme ça que je dois traduire. Je perds à peu près 10 kilos par kilo. C'est comme ça qu'il faut traduire le terme de Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Ceux qui parlent l'hébreu correctement savent qu'on ne peut pas traduire comme vous traduisez en français au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas vrai, c'est une faute grammaticale. Puisqu'il y a une smichut en hébreu, donc on aurait dû dire Bereshit, Habria. On ne peut pas dire Bereshit, Bara, ça ne veut rien dire. Donc je suis obligé de dire que Reshit est le nom d'une identité qui, grâce à elle, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et là aussi, B, avec le moyen de quelqu'un qui s'appelle Reshit. Et les sages immédiatement de nous dire, la Torah et Israël s'appellent Réchit. Israël qui s'appelle Réchit, Tehu Ato, les prémices de sa récolte, c'est-à-dire les prémices de sa pensée divine, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure. Et la Torah aussi, Réchit Chochma, c'est les prémices de la sagesse. Et en réalité, la Torah et Israël, c'est une seule et même chose, parce qu'elle est à l'intérieur de nous, et non pas extérieure à nous. Et je vais même vous choquer, le fait que nous ayons reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est parce que nous n'étions pas capables de la révéler alors qu'elle était déjà en nous. Donc on nous a donné un élément, soi-disant, qui descend du ciel. Mais en réalité, il est déjà en nous. Mais comme on n'était pas capable de le faire nous-mêmes, alors il y a eu tout ce degré du don de la Torah au Mont Sinaï. Mais naturellement, on aurait dû extérioriser la Torah qui est déjà en nous. Je reviens. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est avec Reshit que le ciel, qu'est-ce que ça veut dire et hashamayim ve'et? Et en hébreu veut dire avec. Donc le ciel et la terre vont se marier grâce à qui? Grâce à ce degré qui s'appelle Reshit, donc Israël. Donc Israël, je vous traduis, est le seul capable de relier le ciel et la terre. Bien entendu, il ne s'agit pas ici du ciel et de la terre, mais des valeurs célestes et des... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On veut des choses dans notre vie qui n'ont aucun rapport avec ce que nous sommes venus faire. Donc il faut faire un nettoyage extraordinaire pour commencer à vouloir ce que Dieu veut qu'on veuille. C'est-à-dire sa véritable volonté, puisqu'il nous a créés pour traduire ses valeurs célestes sur terre, et non pas pour m'inventer des choses qui n'ont aucun rapport, je suis en train de perdre mon temps. Et le temps de la Géoula, de la rédemption complète. Alors quand est-ce que Abraham va entendre pour la première fois ce changement qui lui vient par la capacité de l'écoute qu'il a développée en lui? Car chacun de nous, comme je viens de vous le dire, vous êtes tous capables d'entendre les mêmes choses qu'Abraham. C'est le Zohar qui nous dit. Le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Ech Lecha n'a pas été dit à Abraham, c'est dit à tous les Juifs du monde, à toutes les générations. Seulement Abraham était au niveau de l'écoute, donc il a entendu, il a accepté, il a fait. Est-ce que vous êtes capables d'en faire autant? Alors il y a un petit secret qui est amusant, mais qui est très important, puisque nous sommes dans la génétique. Quand est-ce que Abraham s'est mis au niveau de l'écoute de ce Lech Lecha, et qu'il a quitté Oukazim, et qu'il est venu en Eretz Israël? En 1948 de la création du monde. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Depuis la création du monde jusqu'au Lech Lecha de Abraham, se sont passés exactement 1948 ans. Ça veut dire que dans l'histoire d'Israël, puisque nous sommes les gènes de ce Abraham, dans un certain 1948, nous aussi, nous allons revenir sur notre terre. Extraordinaire. Maase avot, siman labanim. Ce qui s'est passé chez nos pères s'est imprégné dans nos gènes. On ne peut même pas faire autrement. C'est-à-dire que les choses vont se passer malgré nous. Et on nous demande seulement d'y participer ou bien de faire les morts. Alors chacun choisit sa route. Certains se disent j'attends encore un petit peu, je le fais comme si je n'ai pas entendu le Lech Lecha. Et d'autres se disent non, je l'ai entendu, je dois appliquer parce que c'est ma vie, parce que c'est mon avenir. Et pas parce que c'est ma vie et c'est mon avenir. Ela aretz asher ar'eka. Qu'est-ce que ça veut dire, ela aretz asher ar'eka? Pas vers la terre que je t'indiquerai. Nous disent les sages quelque chose de beaucoup plus profond. Vers la terre à partir de laquelle les nations pourront te voir. Et la aretz asher misham ani ar'e otcha leumot haolam. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisque nous sommes un peuple qui a été créé dans sa génétique pour révéler la parole de Dieu sur terre, ce n'est possible que d'un seul endroit. La terre d'Israël et la Aretz Asher Areka, lorsque tu seras un peuple sur ta terre, les nations du monde commenceront à te donner du poids. Et le poids qu'elles te donnent, ce n'est ni plus ni moins le poids d'Akadosh Baruch Hu, que toi-même, tu es le porteur de ce message. Donc Abraham Avinu s'est transformé d'un homme individuel en peuple. Et ça, ça ne peut pas se faire en dehors de ce lieu. Et d'ailleurs, Rashi insiste là-bas, presque lourdement, « Kan, iyatazoché le banim. » Tant que tu n'es pas sur cette terre, tu ne pourras pas avoir de construction. Banim ici, c'est bonim. Tu ne pourras pas te construire, tu ne pourras pas jouer ton rôle dans l'histoire. Cham, lorsque tu seras sur cette terre, atazoché le banim. Tu auras une construction, tu vas commencer à te construire. Cette construction va gêner, bien entendu. Donc il y a un lieu sur terre qui correspond à ta nature humaine, c'est-à-dire à l'âme. Il y a donc ici une correspondance entre la valeur de ce peuple d'Israël qui est seul capable de dévoiler, de révéler les valeurs de Dieu, et il y a un lieu géographique qui correspond à cette forme d'âme. Et lorsque ces deux degrés s'unissent, il y a mariage, il y a enfantement, engendrement d'un troisième degré qui est le temps. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de bien ficelé, de bien programmé, par le programmateur de l'univers, par celui qui met de l'ordre dans l'univers, de savoir qu'en réalité les choses sont claires, mais il faut les étudier d'une manière qui révèle, qui fasse flotter tous ces secrets que si tu ne comprends pas, eh bien tu prends des textes de Torah, tu étudies, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que le peuple d'Israël a été doté de cette capacité de révéler l'éternité dans ce monde. Et le lieu qu'Abraham aussi va préparer, sans savoir, intuitivement, Har HaMoria, la montagne du parfum de Dieu, mor veut dire parfum, Ya, c'est le nom d'Hachem. Donc, le parfum, c'est-à-dire que l'endroit le plus parfumé au monde, et pourquoi il est parfumé? Parce que tout ce qui est spirituel, tout ce qui a un degré de l'au-delà, ça va ensemble avec la bonne odeur. Sachez-le. Quand quelque chose émane de lui une mauvaise odeur, c'est qu'il est à l'inverse de la vie. C'est pour ça que la mort sont mauvais. Parce que c'est la vie qui s'est retirée. Or, comment vous traduisez le nom d'Hachem? L'être vivant. C'est pas Dieu. Yud Kevav, qui est le tétragramme. C'est l'Iyot à l'infinitif. C'est être. Hové. Je vis Mehavayato de son être. Ça veut dire que le lien entre lui et nous est un lien de vie. Et ce lien de vie passe de l'infini vers le fini. Donc nous avons une date, nous avons un lieu, et nous avons une forme d'âme qui correspond à ces degrés pour faire ce travail. À partir de ce moment-là, Vayera Elav Yutke Vaske. Ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, de ce Shabbat dernier, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Vayera Elav, le tétragramme se dévoile. Pour faire quoi? C'est écrit là-bas, pour faire quoi? Non, vous cherchez. Bon d'accord, Dieu s'est révélé, alors qu'est-ce qu'il veut? Vous cherchez un verset après, il n'y a rien. Les sages nous disent, mais c'est pas pour faire quelque chose qui s'est révélé. Parce que la révélation elle-même, c'était la chose. C'est-à-dire qu'il y a eu là-bas accouplement entre l'infini et Abraham, et de cet accouplement-là, il y a la grossesse du fils Yitzhak qui est en train de sortir. Ça veut dire que Yitzhak, c'est la suite génétique première de la matrice Abraham. Abraham holit et Yitzhak. Bizarre. Il a engendré quelque chose qui n'existe pas dans le monde jusqu'alors. Quoi ? Le rire. Yitzhak veut dire celui qui rira. Rira bien qui rira le dernier. C'est le mot Yitzhak. Ah, si je devais traduire en français le mot Yitzhak, imaginez-vous que j'ai un enfant auquel j'appelle celui qui rira. Tu viens manger ? C'est ça Yitzhak. Et pourquoi on l'appelle Yitzhak ? Quand la chomère Yitzhakli, parce que quand tu vas raconter ce que je suis en train de vous raconter aux nations du monde, elles se moqueront de toi. Mais pourquoi il est au futur ? Parce que c'est lui qui va rigoler en dernier. Et pourquoi il rigole en dernier ? Parce que le mot tsrok se décompose en hébreu. Regardez la beauté. C'est min ha-chok. Sortir des règles. Ça veut dire que le peuple d'Israël est un peuple qui sort des règles naturelles. Et c'est ce qui fait rire. Quand vous marchez dans la rue et que vous voyez quelqu'un glisser, il tombe. Même si on a de la peine, la première réaction, c'est un rire. Pourquoi ? C'est sorti du cheminement normal. Eh bien, c'est exactement pareil. Le tsechok, c'est chok. C'est la capacité de sortir des règles. Et ça, c'est la naissance du rire. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est la création du rire, parce que c'est la création d'un être qui sort des degrés naturels tels que nous avons la perception de la nature. Donc nous sommes des extraterrestres. C'est pour ça qu'on nous traite comme des êtres qui ne font pas partie de ce monde. Et les sages s'appellent Umot Ha'olam, les nations de la terre, les nations du monde. Sous-entendu, le peuple d'Israël ne fait pas partie des Umot Ha'olam. C'est très simple. Quand vous voulez convertir quelqu'un qu'il vient de lui-même pour se convertir, comment on dit en hébreu qu'il s'est converti ? Ou hit gayer. Qu'est-ce que ça veut dire hit gayer en hébreu ? Il est devenu étranger. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, il faisait partie de la terre et des habitants de la terre. Maintenant qu'il est rentré dans un peuple qui ne fait pas partie de cette terre, il devient étranger à la terre. Guerre. Incroyable. Extraordinaire. Mais il faut savoir l'hébreu pour savoir ça. Il faut étudier les racines des mots pour comprendre ces secrets. Abraham a reçu tout cela parce qu'il a fait en lui une ouverture. Il a créé en lui une ouverture. En langage moderne, il s'est ouvert. Ouvre-toi. Comment il s'est ouvert ? En faisant la Brit Mila. Quand il a ouvert le canal en réalité, dans son corps, il a ouvert la circulation à l'infini qui commence maintenant à le traverser. Tant que ce canal était fermé, eh bien, le membre était fermé. Comment on dit un membre ? Ever. Quelle est la lettre qui montre que tout est fermé ? Le même final. Donc Ever, même. Ever, Sagou, Abraham. Abraham, c'est Ever, même. C'est-à-dire un membre fermé. Et quand le membre va s'ouvrir, il va falloir mettre entre le Ever, le membre, et le même fermé, la lettre He de l'ouverture. Abraham. Vous comprenez ? Ce sont des secrets de Zohar que je suis en train de vous dire. Et pourquoi cette lettre et pas une autre? Parce que la lettre He représente la dernière lettre He du tétragramme, c'est-à-dire la royauté d'Israël. Autrement dit, le jour de la Mila d'Abraham, il a préparé, prévu pour les générations futures, la capacité de révéler le royaume du ciel sur terre. Il n'est plus Abraham, il est Abraham. Et la Gemara de nous dire, celui qu'il appelle Abraham est un fauteur. On n'a plus le droit de l'appeler Abraham. Il faut le dire et il faut prononcer, ce qui est difficile pour les francophones, le « hé ». Ce n'est pas Avraham, comme s'il y avait quatre « a ». Tout est pareil. « Ra'anana ». Non, c'est « ra'anana ». Il faut dire les choses. Donc « Avraham », il faut dire le « hé ». Il faut l'entendre. Ce n'est pas un ensemble de « a ». Des « a » partout. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque l'infini descend sur terre, et là je reviens à certains cours que vous avez sûrement entendus par moi ou ailleurs, la structure du monde dans lequel nous sommes est une structure à base de 7. Vous vous rappelez? Donc lorsque l'infini va venir dans ce monde, c'est comme si le 8 descendait dans le 7. Pourquoi je parle du 8? Parce que Shmoné, en hébreu, c'est Neshama, c'est les mêmes lettres. C'est Shemen, c'est l'huile qui flotte par-dessus tout. C'est Shamaïn, c'est le ciel. C'est pas par hasard que chez les autres, ils ont pris aussi, leurs grands sorciers s'appellent des chamans. Ça veut dire qu'ils sont de l'ordre du 8, soi-disant. Mais nous, on sait d'où vient ce 8. Le huitième jour de la Brit Mila d'un bébé. Pourquoi on fait la Brit Mila au huitième jour? Justement parce que c'est le moment du lien avec l'infini qui est au-dessus du 7. Et c'est là où tu peux connecter, donc tu vas lui donner le prénom qui lui correspond par nature, parce que tu l'auras reçu par prophétie, parce que tu es déjà relié au 8. Qui correspond dans les tribus d'Israël à Ménaché, c'est la lettre Shmoné aussi. Sans rentrer dans tous les détails. Ça veut dire qu'on appelle ça Hasarat HaOrla. On a enlevé le prépuce en français, okay? Mais la Orla en hébreu, c'est les lettres de Ra'al. Le poison, ce qui nous étouffe, ce qui nous empêche de voir la vérité en face. Donc la Brit Mila a ouvert complètement l'être Avram et on a fait Avraham. Et pour ceux qui étudient un petit peu plus la Kabbalah, vous savez que Avraham représente en réalité, c'est le support de la sphère de la bonté, de l'amour, du partage, qu'on appelle le Chesed. Eh bien c'est la première sphère qui commence les 7 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, la première sphira, c'est la sphira de Chesed. Et donc c'est grâce à elle que tout peut se construire, comme il est dit, Olam Chesed Yibane. Et qui est relatif à cette sphira? Abraham. Donc Abraham, c'est l'ouverture, c'est la matrice de toute la descente de l'infini dans le monde fini. Alors quand on vous dit dans la Amida, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, vous êtes en train de citer des sphères en réalité, qui est le Chesed, la Gvura et la Tiferet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Be'ezat Hashem, dans des prochains cours, on va un petit peu plus rentrer dans tous ces degrés. Mais comment est-ce que vous terminez cette bénédiction? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. C'est bizarre, j'ai commencé par lui et je termine par lui. Dit la Gemara, il n'est pas seulement la sphère de Chesed, il est aussi la sphère de Malchut. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il y aura un jour la royauté d'Israël. C'est avec toi qu'on termine, qu'on clôture Alors moi je me pose la question, puisqu'on parle de la génétique, est-ce qu'on fait les pères, ça reste dans les enfants? Où est-ce que la royauté d'Israël, beaucoup plus tard dans l'histoire, va commencer à s'ériger? À Hébron. C'est là-bas où le roi David entre avant d'arriver à Yerushalayim. Que fait Abraham Avinu à Hébron? Sa première acquisition sur la terre d'Israël. Ça veut dire que nous avons acheté notre première maison en Eretz Israël via Abraham. Mais je vous ai menti, ce n'est pas une maison, c'est une tombe. C'est pas très rassurant. Le premier achat sur la terre d'Israël est une tombe. J'aurais bien voulu un champ, quelque chose d'autre. Vous dites le Chachamim, pourquoi une tombe? Parce que la tombe représente l'éternité. Donc Abraham voulait préparer à ses enfants, c'est-à-dire à nous, l'éternité par son achat. Ce n'était pas anodin. Et il l'a fait à Hébron parce que Hébron va être la racine de la royauté d'Israël qui va se clôturer après à Yerushalayim. Donc ça fait le lien avec le début, Adam Arishon, et la fin, la royauté de Dieu sur terre. Donc c'est le mot de Marpella, c'est là-bas où les choses se multiplient. Après on nous a volé des degrés. Arata Marpella, c'est la multiplication. Vous savez à quoi je fais référence. Donc Zeh Hashar Lashem, Vehu Yoshev, Petach. Ha-ohel. Maintenant vous comprenez pourquoi il est écrit que Abraham est assis à la porte, à l'ouverture. À quelle ouverture? À sa propre ouverture. Grâce à l'ouverture, nous disent les sages, Petach tov patachta. Tu as ouvert en réalité la porte à tous tes enfants. Tu leur as permis aux enfants de tes enfants d'avoir la Géoula. C'est-à-dire nous. Umevi Goel. L'Ibnei Bneihem. Le Goël, le Rédempteur, le Mashiach va venir au fils des fils. Les Ma'an Shemo, tout ça pour son nom. Quel est le nom? La révélation. Mon nom c'est que pour vous, moi je ne m'appelle jamais. Donc le nom d'Hachem c'est pour le monde. Donc c'est nous les révélateurs du nom d'Hachem. Et donc notre génétique Israël contient en elle, en réalité, nos pères et nos mères. Donc les lettres du mot Israël, ce sont en réalité tous les patriarches et tous les matriarches. Israël, Yud, c'est Yitzhak, Shin, c'est Sarah, Resh, c'est Rivka et Rachel, Aleph, c'est Abraham, Lamed, c'est Léa. Tout le monde est là. C'est-à-dire le mot Israël, c'est les pères et les mères. On a un problème. Au lieu d'avoir un seul père, on en a trois. Et au lieu d'avoir une mère, on en a quatre, plus deux servants. C'est-à-dire le complexe de dit, bonjour. Pourquoi on n'a pas un seul père et une seule mère? Parce qu'un seul père n'est pas encore abouti. Abraham, ce n'est que le début, mais de lui va sortir Ishmaël, donc il y a un problème. Israël lui aussi ne peut pas être un seul père, parce que va sortir de lui Esav, encore plus dangereux, parce qu'il est jumeau déjà. Ah, Yaakov, regardez l'entonnoir, comment il devient dangereux. Et Yaakov, lui, c'est fini ou pas? Normalement, c'est fini. Mais lorsque les frères veulent tuer Yosef, pourquoi ils veulent le tuer? Parce qu'ils se disent, c'est la même chose, c'est encore un déchet. Il faut le sortir du lot. Et si effectivement Yaakov, quand ils reviennent avec le vêtement entaché de sang, ils disent Yosef, il est mort. Qu'est-ce qu'il se dit Yaakov? Le tri n'est pas encore terminé. Moi je croyais que c'était terminé. Si effectivement il est mort, c'est fini. Et quand Yosef revient, c'est Yaakov qui revit. Mais même Yaakov n'est pas abouti. Puisqu'il va falloir qu'ils combattent, qu'ils fassent des guerres, qu'ils se fassent voler pour devenir Israël. Loi kare otimcha Yaakov, ki Israël yeshemecha, ki sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Il arrivera un moment où tu t'appelleras Israël. Comment on vous appelle aujourd'hui? Israël, Rabotai, vous n'êtes plus Yaakov. Les sages nous disent que Yaakov, c'est le juif de l'exil. Et Israël, c'est le juif lorsqu'il revient sur terre. Même quand vous ne comprenez rien, que vous entendez un Palestinien parler, Israël. Ça, vous entendez? C'est-à-dire, le mot Israël, c'est ce qui nous définit. Et vous savez ce que ça veut dire, Israël? C'est ce que nous, nous n'avons pas envie d'être, et que les nations nous disent, mais c'est ce que vous êtes. Comme ils ont dit à Abraham, Avinu. Qu'est-ce qu'il leur dit à Abraham? Je suis comme vous, moi. Il dit, non, tu n'es pas comme nous. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es le représentant de Dieu sur terre. C'est comme ça que les nations nous voient, Rabotai. C'est pour ça qu'on est tout le temps photographié, filmé. Parce qu'on représente à leurs yeux les représentants de la morale divine sur terre. Et quand quelqu'un a envie d'acheter quelque chose de religieux, ne serait-ce qu'un dieu, c'est nous les fournisseurs. Il y en a un qui est encore accroché depuis 2000 ans. On fournit tous les dieux. Ça veut dire que quand on veut acheter un dieu, même si on ne comprend rien, on vient chez Israël. Je vous dis des choses en rigolant, mais c'est des choses très profondes à Botaï. Et donc les sages nous disent « En Corinne Avot El Alishlosha ». On n'a pas le droit de définir des pères si ce n'est que trois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que nous sommes en réalité un triangle. Et il faut un tri. Un tri parce qu'il est difficile de voir quel sera le porteur du message. Regardez, Terach, le père d'Abraham. Quelqu'un, un jour, aurait pu s'imaginer qu'il ait un enfant comme Abraham. Même pas lui. C'était un vendeur d'idolâtre, d'idole. Alors, le père d'Abraham, c'est déjà le premier fournisseur. Les gens vont acheter des jeux chez lui. C'est l'hébreu du coin. Eh bien, de lui va sortir Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, un homme mauvais apparemment est porteur du message. Donc ça peut tromper. Abraham ne sait pas lequel de ses deux enfants sera le porteur du message divin. Ishmaël ou bien Yitzhak. Eh bien Sarah, elle qui voit, elle lui dit non, c'est pas Ishmaël. Et Abraham au début est en colère. Et Dieu est obligé de lui dire, qu'elle te dit Sarah, écoute-la. Après Yitzhak, qui l'a choisi? Et ça, plutôt que Yaakov. Pourquoi? Parce que Yitzhak lui aussi pensait que peut-être le message divin passera par Esav et non pas par Yaakov. Parce qu'il a déjà eu l'exemple de son grand-père, de son père. Vous comprenez comment c'est difficile? Jusqu'au moment où tout est clôturé par Yaakov Avinu alav shalom. Cette histoire continue. Et je vais la clôturer en parlant de quelque chose qu'Abraham intuitivement fait. Pourquoi Abraham prie pour les gens de Sodome et Gomorre? Il n'a rien à faire dans la vie. Ce sont des méchants. Moraï Verabotai, Abraham a compris qu'à l'intérieur de cette ville se trouve une intensité de vie extraordinaire. Le Rambam Maïmonide, à la fin de Ilchot Melachim, dit qu'il n'y avait pas d'abondance dans le monde comme dans cette ville. Alors qu'est-ce qui manquait? Il manquait qu'en réalité, ils ont eu l'impression qu'ils sont arrivés à la plénitude dans ce monde, mais c'était en réalité fermé à cette seule société. Un pauvre qui rentrait de l'extérieur dans cette ville, on le jetait vite. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelait qu'il y a encore des malheurs dehors. Ne me tâche pas l'image. Je suis arrivé à un degré messianique. Ne viens pas me tâcher cette image. Tous colporteurs sont interdits dans notre ville. Et puisque je suis arrivé à un degré de plénitude, je n'ai même pas besoin de lendemain. Donc je ne me marie pas avec une femme, ça risque d'avoir des enfants qui ont encore des manques. Il vaut mieux que je me marie avec un mec. C'est de là que ça vient, Rabotaï. C'est parce qu'il ne voulait pas avoir de descendance, parce que la descendance, c'est le manque. Et je ne veux pas que quelque chose vienne m'entacher le nirvana dans lequel je suis. Mais en réalité, au fond, ils avaient raison. Parce que le Mashiach se cachait à Sodome. Où est-ce qu'il était caché ? Chez Lot. Lot ! Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Lot ? Un écran. Une couverture. Donc il fallait sortir la couverture de Sodome pour dévoiler le messianisme. Et effectivement, lorsque Lot a eu un rapport avec sa fille, ils l'ont appelé Moab, qui a donné naissance un petit peu plus tard dans l'histoire à Ruth la Moabite, qui est la grand-mère de David, qui est en réalité l'ancêtre du Mashiach. Donc le Mashiach était à Sodome. Et Abraham va prier, pourquoi en réalité ? Pour sauver le Mashiach de toute cette perdition. Regardez d'où sort le Mashiach. Ma'asé avot, siman labani. Ce que Abraham était capable de faire, nous devons faire aujourd'hui dans n'importe quelle situation. Savoir enlever les écorces pour trouver la lumière qui se cache. Et ça, c'est le secret de l'optimisme d'Israël. C'est avec ça qu'il faut rentrer. C'est avec ça qu'il faut avancer. Et dans cette année de Shemitah, où nous sommes dans la septième année que la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, nous dit « Beshmitah, Beshvit, Milchamot ». Pendant la Shemitah, il y a beaucoup de guerres. Et c'est difficile, c'est comme un Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est, je ne sais pas comment on dit, géré, régi par la planète Saturne. Je reviens, je vais Saturn Day. Okay? C'est comme ça. Dimanche, c'est quoi? Sun Day, c'est le jour du soleil. Lundi, Moon Day, le jour de la lune. Mardi, Mars Day. Mercure Day. Jupiter Day. Venus Day. Saturn Day. Eh bien, la planète Saturne est une planète très difficile. Encore une fois, il n'y a que Israël qui peut la supporter. Et c'est pour ça que Goy chez Shabbat, Chayavita. Si un Goy fait Shabbat, il est condamné à mort, pas parce qu'on le punit, parce qu'il a touché une lumière qu'il n'est pas encore capable de recevoir avant sa conversion. Donc on l'oblige à faire une faute Shabbat en cachette. Je conclue. Tout ce que nos pères nous ont laissé, en réalité, ça passe dans nos gènes. Nous sommes Abraham, nous sommes Yitzhak et nous sommes Yaakov. C'est à l'intérieur de moi, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, et tous ces personnages sont à l'intérieur de notre peuple et à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est à nous de savoir faire les tri pour enlever ce qui est inutile dans notre vie, qui nous rend malheureux parce que nous ne sommes pas dans notre véritable vie. Or, le bonheur en hébreu, Osher, vient du mot Ishur. C'est-à-dire quand je certifie, je suis heureux. Mais quand je triste par rapport à ce que je suis à l'intérieur et que je vis des choses étrangères à ma véritable culture interne, alors Chas v'Shalom, il y a des sentiments de manque de bonheur. Yehi Ratzon, que nous sachions, Be'ezrat Hashem, chacun de nous, enlever les éléments inutiles dans notre vie pour nous concentrer vers l'essentiel. Et si j'ai dit tout à l'heure que la Gemara disait « Be'shvi'it milchamot », il y a quand même une phrase après « Be'mosa'e shvi'it ben David ba ». À la sortie de la Shemitah, il y a un dévoilement messianique. Yehi Ratzon, qu'on puisse le voir et que Be'ezrat Hashem, d'enlever ce lot va nous faire voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur terre et qu'on commence réellement à jouer notre rôle. Toda rabba lekoulam. Si vous avez des questions, on peut faire peut-être deux ou trois questions.